Le quotidien de l'IMO. Tout écho, tout IMO. Midi, midi 30. Christophe Bordet.
Bonjour à tous, bienvenue dans le quotidien de l'IMO, 26 minutes d'information économique et immobilière. Notre invité du jour, Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI, l'un des leaders du courtage en France. Est-ce le moment d'emprunter pour acheter? Tiens, on va se poser la question, Philippe Taboret nous dira tout dans quelques instants. Nous serons également avec Pierre Évrard de la FNAIM. Il va nous rejoindre pour évoquer le nouveau DPE qui ne fait pas l'unanimité. Mais tout de suite, c'est l'actualité du jour, l'actualité immobilière et économique. Avec vous, Élodie Rabel, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est aujourd'hui la fin de la trêve hivernale prolongée de 2 mois cette année en raison de la crise sanitaire. 30 000 ménages menacés. La ministre du Logement demande au préfet d'échelonner les expulsions jusqu'en 2022 et promet une solution de relogement ou d'hébergement pour les expulsés qui ne peuvent plus payer leur loyer. Des loyers de plus en plus chers, c'est ce que montre une étude de l'Observatoire Clameur. Il monte en flèche dans toutes les grandes métropoles, surtout en Normandie, dans les Pays de la Loire et en Bourgogne-Franche-Comté.
Alors, Élodie, l'actualité, c'est aussi Paris. Paris boudé par les Français, mais pas par les riches citoyens du monde.
Et la capitale se classe même dans le top 3 des villes pour les ultra-riches, devant Tokyo, Los Angeles, Pékin ou Berlin. Un palmarès établi par le réseau immobilier Knight Frank. Tout en haut du classement, on trouve Londres et New York. Eux, en revanche, ne veulent plus de nouveaux arrivants. Les habitants du Pays Basque font la guerre aux touristes qui souhaitent acheter un pied-à-terre sur la côte. Sur les devantures des agences immobilières, sur les façades des maisons, on peut lire « Le Pays Basque n'est pas à vendre », tagué en lettres noires et en basque évidemment. En effet, le prix du mètre carré dans la région s'envole, poussé par le marché des résidences secondaires.
Merci beaucoup Élodie Rabel.
Le quotidien de l'IMO.
Au programme du quotidien de l'IMO, notre invité, c'est Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI, l'un des leaders du courtage en France. Nous rejoindrons également Pierre Évrard de la FNAIM pour parler du nouveau DPE et Antonio Pinto, fondateur de Bellman, le syndic qui mise sur le numérique. C'est parti.
Le quotidien de l'IMO, l'invité du jour.
Philippe Taboret, bonjour.
Bonjour Christophe.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Immo. Je le disais, les ventes de logements en France battent des records. 1 080 000 transactions malgré une année difficile, puisqu'il y a eu, vous le savez, les confinements. Ça veut dire aussi beaucoup de prêts accordés aux particuliers. Alors, les taux toujours aussi bas, c'est quand même notable. Vous venez de sortir justement le baromètre CAFPI et on va en parler. Si on prend les choses basiquement, là, au moment où on se parle, ça ne bouge pas. Encéphalogramme plat pour les taux, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est tout à fait ça. Hein. On est sur une stabilité des taux depuis quelques mois qui est assez impressionnante. Oui.
Est-ce que ça va durer?
Alors, ça dépend de quel délai on parle. Pour cet été, on est assez tranquille, ça ne devrait pas beaucoup bouger. On est encore sur des conditions de soutien à l'économie et au marché financier en Europe, qui est très fort, très soutenu par la Banque centrale. Donc, il n'y a pas de raison que les banques changent leurs conditions. Les taux ou le coût de l'argent reste le même. À plus long terme, ça peut poser problème.
Alors, on va en parler. Quels sont les taux les plus intéressants qu'on trouve aujourd'hui quand on veut acheter un appartement ou une maison?
Alors, on va prendre sur la durée de 20 ans, qui est la durée la plus choisie, la plus utilisée pour les crédits immobiliers. Sur 20 ans, pour les meilleurs profils, on est à 0,65.
0,65.
Oui, un taux d'attaque, hors assurance, bien évidemment, taux fixe hors assurance. Ouais. Et puis, pour des profils moins séduisants pour la banque, on va être sur des taux de 1 à 25.
Moins séduisants, ça veut dire quoi? Des primo-accédants, par exemple?
Moins d'apport, moins de revenus.
Plus de difficultés pour eux?
Voilà, des endettements un peu plus lourds, enfin voilà. Ce qui sera un moins bon épargnant pour la banque, puisque quand elle fait un crédit, elle capte un client qui pourra épargner chez elle.
Alors, pas d'inquiétude, vous nous dites, pas d'inquiétude dans l'immédiat. En revanche, quand même des questions pour la suite de l'année. Et c'est vrai que on voit que l'inflation repart, par exemple, aux États-Unis. Les taux remontent un peu. Avec le redémarrage de l'économie, c'est ce qu'il risque aussi de se passer en France. Il y a cette crainte d'une inflation qui reviendrait.
Oui, en fait, il y a deux indicateurs pour les banques pour fixer la grille des barèmes pour leurs clients, le coût de l'argent qu'elles vont soumettre à la clientèle. Il y a le coût de l'argent elle-même. combien coûte la ressource monétaire. Aujourd'hui, on sait qu'elle est à zéro, voire inférieure à zéro, au niveau de la Banque centrale, puisqu'on sait que les banques centrales délivrent beaucoup d'argent, font tourner la planche à billets, comme on le dit, pour soutenir l'économie depuis maintenant plus d'un an. Et puis, même avant d'ailleurs, il y avait déjà des soutiens. Et puis, il y a les risques à long terme de variation des taux. Ce sont plutôt le marché des obligations qui nous donne ces indicateurs, où là, on est sur la spéculation sur l'OAT, l'obligation assimilable du Trésor. Souvent, les dettes d'État, en définitive, qui pourraient tenter les spéculateurs à investir dessus et faire monter ces taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt à long terme permettent aussi de fixer un risque sur le long terme. Et ces deux indicateurs, on a eu des petites inquiétudes là, sur ces derniers mois, puisqu'effectivement, la reprise de l'inflation avec l'augmentation des prix des matières premières, bien évidemment, essentiellement. Et puis surtout, ce qu'on aperçoit, c'est le retour à la croissance, puisque la sortie de crise sanitaire va nous permettre à nouveau de consommer. Et donc, on va retrouver de la croissance. Les pronostics de l'OCDE, d'ailleurs, sont très optimistes.
On est sur du 5,8, je crois, pour la France.
C'est ce qui est la prévision. Alors, attention, il y en a fait encore. Tout ça. Mais en tout cas, on avait crainte pour que les obligations remontent. Et à ce moment-là, les banques auraient remonté également leur taux d'intérêt, puisque le risque de variation des taux augmentait. Les taux longs, bien sûr, on parle ici. Et en fait, la Banque centrale a été claire. Et même si on regarde les États-Unis, qui est quand même un peu notre vaisseau amiral, le vaisseau pilote, qui nous montre le chemin.
Mais il y a toujours un petit décalage de six mois. Voilà.
C'est ça. Ouais. Il y a 6 mois entre la reprise chez eux et la reprise chez nous. Donc, c'est pour ça que je me permets un pronostic. On se trompe toujours dans les pronostics. Mais je m'en permets en disant, d'ici cet été, on est tranquille. Ouais. À septembre, on verra où en sont ces indicateurs et si les banques ont dû remonter leur taux d'intérêt.
Bon, on verra si votre boule de cristal dit la vérité ou pas, Philippe Taboret. En tout cas, un peu d'inflation, ça permet aussi de rembourser un peu la dette. Oui. Alors, vu la dette abyssale que l'on a, quelque part, c'est peut-être pas si mauvais que ça non plus, quoi, je veux dire.
Alors, il en faut de l'inflation. C'est pour ça que la Banque centrale fixe la barre à 2 points. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais en tout cas, il en faut de l'inflation pour que les prix augmentent. Ouais. Bien évidemment, puisque les salaires augmentent dans ces cas-là et la croissance augmente par nature. C'est le mode de consommation. Donc, en définitive, il faut une bonne croissance maîtrisée. C'est surtout la maîtrise qui est importante.
Ouais, plus de 2000 milliards de dettes, quand même, je le rappelle.
Voilà.
Pour
et
la
puis,
France,
à un moment, on finira par rembourser ou pas cette dette. Ça, c'est un autre sujet.
Évidemment. Les banques avaient serré la vis fin 2020, on s'en souvient. Est-ce que l'étau s'est véritablement desserré? Que disent les premiers mois de cette année? Qu'est-ce que vous constatez?
Ils sont formidables, les premiers mois de cette année. Alors, je prends les indicateurs CAFPI de production nouvelle, c'est-à-dire les nouvelles demandes d'emprunteurs. On est à plus 40% à ce mois de fin mai. On était déjà à plus 30% sur le premier trimestre.
Plus 40% fin mai.
Fin mai, comparativement donc à l'année 2020, en sachant que sur ce seul mois de mai, on a fait 100% d'augmentation. C'est-à-dire qu'on a fait deux fois plus de demandes de dossiers déposées en banque que l'année dernière.
Ouais. Donc c'est une divine surprise.
Alors, on s'y attendait un peu, puisque vous l'avez rappelé, il y avait eu des critères très, très durs l'année dernière imposés par le HCSF, le Conseil de stabilité financière, donc piloté par la Banque de France et le ministère des Finances, avec des objectifs particuliers qui, un peu, voulaient limiter l'accès au crédit, qui s'est détendu au mois de décembre. On a beaucoup manifesté, on s'est battu avec eux pour dire qu'il ne faut pas bloquer la machine de l'immobilier et la machine du crédit, bien évidemment. Donc, on a desserré un peu ces critères en début d'année et ça a profité essentiellement à cette clientèle qui en a le plus besoin d'avoir des critères assez souples, des longues durées, des taux d'endettement acceptés, etc. etc. Et parce qu'il manque d'apport et encore de carrière, on va dire, professionnelle, de revenus. Ce sont les primo-accédants qui sont le moteur du marché. Donc il faut absolument alimenter cette machine pour effectivement permettre à l'immobilier de se relancer. Premier problème, HCSF. Deuxième problème, crise sanitaire. On a été fermé il y a un moment, il n'y a plus personne dans les bureaux, donc il fallait bien suivre les dossiers. On a pris beaucoup de retard. Et puis, bien évidemment, le troisième problème, c'est le marché lui-même de l'immobilier avec des prix qui, à un moment, ont failli ralentir parce qu'il y avait moins de demandes l'année dernière, moins de crédits, et puis ils repartent à la hausse dans l'ancien, simplement. Alors, ce n'est pas la seule raison, mais pour une raison principale, c'est qu'il n'y a plus de neuf. Il n'y a plus de neuf. On a construit 350 000 logements l'année dernière. Il en faut 500 000. La courbe s'effondre. On fait la construction par an d'il y a 30 ans. Donc, en fait, ça ne suffira pas à loger tous les Français qui sont à la recherche d'un mieux pour se loger, pour acheter ou pour louer.
Et quand il n'y a pas assez de logements proposés, inévitablement, les prix grimpent. Et ça, c'est à chaque fois la même chose.
Et les zones tendues se tendent.
Absolument. Voilà. Philippe Taboret de CAFPI, vous restez avec nous dans le quotidien de l'IMO. On va passer au vert, tiens.
Le quotidien de l'IMO. Vert et durable.
Pierre Évrard, bonjour. Est-ce que Pierre Évrard m'entend?
Oui, tout à fait.
Comment ça va, Pierre?
Bah écoutez, très très bien, magnifiquement bien.
Chargé de mission, développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM, merci d'être avec nous dans ce quotidien de l'IMO. Deux mots sur les coprovertes, tiens, parce que évidemment on les vit ensemble chaque vendredi, la tournée continue et on peut dire qu'il y a un véritable attrait des propriétaires sur la rénovation là, hein.
Eh bien, des propriétaires, des copropriétaires, ouais. Et clairement des syndics. Alors c'est vrai que le tour des régions, on a dû le digitaliser hein, du fait du Covid.
Bah oui.
Finalement, on est sur un modèle qui a trouvé son public, qui fonctionne bien. Et quelque part, il est en totale convergence avec ce que nous voyons sur la rénovation des copropriétés, parce que clairement, le mécanisme est enclenché, l'intensification de la rénovation en copropriété est réellement enclenchée. MaPrimeRénov'Copropriété n'y est peut-être pas pour rien, même pour beaucoup.
Donc la prime rénov', ça marche bien pour les copros aussi, parce que dans les chiffres que l'on a, on s'aperçoit que 60% des dossiers, ça concerne vraiment le particulier avec son appartement ou sa maison. Donc ce n'est pas les copros qui sont fer de lance sur la prime rénov' aujourd'hui.
Eh mais par exemple, si c'est 60%, ça veut dire qu'il y a 40% de dossiers,
oui, ce qui est
en
énorme.
Copropriété, ce qui est quand même assez énorme. Voilà, donc, tout à fait, c'est... très important, vraiment très très important.
Pierre Évrard, dans l'actualité, le nouveau DPE, le nouveau diagnostic de performance énergétique, entré en vigueur le 1er juillet prochain, et beaucoup d'inquiétudes sur la requalification des logements D et E en F et G. Pourquoi cette inquiétude pour vous ?
Alors, inquiétude, finalement, le terme même de diagnostic de performance énergétique est peut-être à revoir, parce qu'on est vraiment finalement sur un indicateur environnemental. Pour mémoire, le DPE, on se souvenait surtout de l'étiquette énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étiquette du futur DPE est une étiquette à double seuil. Ça veut dire qu'elle prend en compte aussi et surtout les gaz à effet de serre. Et quelque part, ça prend la notation la plus basse. Ça veut dire que pour fixer les idées, si on a un bien qui est classé E énergétiquement et F au niveau des gaz à effet de serre, le classement final sera F. Et ça veut dire que à l'heure actuelle, alors évidemment, il y a différentes modélisations, différentes études qui sont en cours de réalisation. On va publier quelque chose prochainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, 40% des biens immobiliers en France vont changer d'étiquette.
Ah oui, 40%, c'est énorme. C'est quoi ? C'est 800 000 logements à peu près
Alors, 800, voilà.
Dans ce qui se vend et ce qui s'achète.
Ça va être beaucoup plus, Christophe, va être beaucoup plus. On va avoir des mouvements entre les classes. Alors, pour les passoires énergétiques, c'est en effet plusieurs centaines de milliers de biens qui, à l'heure actuelle, ne sont pas classés en tant que passoires énergétiques qui vont devenir passoires énergétiques.
Ouais.
Parce que tout ce qui est électrique, finalement, potentiellement va sortir des passoires énergétiques. Tout ce qui est fuel et gaz qui n'étaient pas des passoires énergétiques, il y a une grosse partie qui vont passer en passoire. Et là, quelque part, ça demande de revoir un petit peu les copies et de revoir tous les portefeuilles de biens, notamment en gestion, parce que c'est la valorisation même des portefeuilles.
Mais c'est-à-dire que les prix vont dégringoler. Les prix de vente des appartements ou des maisons vont dégringoler si effectivement ça se passe comme ça.
Potentiellement, on va avoir des surprises. Mais même dans l'esprit des consommateurs, du client, par exemple, à une certaine époque, certains pouvaient rechigner à acheter un bien qui était tout électrique. Finalement, à l'heure actuelle, quelque part, il sera peut-être plus intéressant d'acheter un bien tout électrique qu'un bien avec une chaudière gaz basse condensation.
Pierre Évrard, un mot sur, pour faire suite à ça d'ailleurs, hein, sur la loi climat et résilience qui est au Sénat. La FNAIM a déposé de nombreux amendements. Où en est-on ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors oui, au moment du passage à l'Assemblée nationale, nous avons en effet positionner plusieurs amendements. Le texte est sorti, je dirais, de l'Assemblée nationale, un texte très ambitieux, trop ambitieux. On était extrêmement inquiets, hein, notamment sur des points les obligations, ou au moins les contraintes sur les classes E à l'horizon 2034.
Alors, sur le calendrier, oui.
Sénat, il manquait des outils, il manquait des choses. Et là, on se rend compte que la commission économique au Sénat, avec la sénatrice Estrosi Sassone, finalement, a proposé différents amendements qui voilà, qui propose vraiment des outils assez pragmatiques, tout en conservant une certaine ambition du texte. Donc, et quelque part, c'est des outils dont on a besoin. Hein. Il y a des outils, il y a des outils fiscaux. On pourra parler, par exemple, d'étendre l'éligibilité du De Normandie, doubler le plafonnement des déficits, du déficit foncier reportable. Enfin, quelque part, le Sénat vraiment est intervenu pour apporter beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de voilà des outils de simplification et des outils dont pardon nous avons besoin. On a aussi des corrections qui ont été apportées à la marge. Je crois que c'est la sénatrice Lindemann qui a positionné un amendement pour requalifier un petit peu, rendre un petit peu plus cohérentes les définitions, notamment de rénovation performante.
Oui, non, parce que c'est vrai. Voilà, il est en discussion, il va être en discussion, et on le sait, hein, c'est le jeu entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de points que le Sénat a mis en avant aujourd'hui qui seront retenus, mais pas tous. Donc il faudra voir à la fin à l'Assemblée nationale en seconde lecture effectivement ce que ça donne concrètement. Un petit mot de votre part Philippe Taboret, une réaction à ce qu'on vient d'entendre et notamment à cette classification là des logements qui va poser quand même beaucoup de problèmes.
Alors, personne ne dira le contraire, il faut faire très attention à la consommation d'énergie et essayer d'être plus écologique. Alors là on est tous d'accord et moi le premier. Cependant, il y a des priorités financières dans une politique d'un gouvernement. Et je crains qu'on se mobilise trop sur ces questions, alors qu'en fait, la réalité du problème du logement en France, si je reviens au logement et l'immobilier, c'est d'abord le nombre. Il manque du logement en France. On devrait construire 500 000, on en construit beaucoup moins. Il en manque déjà 1 million. Donc si on mobilise des aides et des soutiens et une vraie politique vers ces destinations, obligatoirement, à un moment, on va dire non, on n'aide pas la construction, on ne fait pas de relance. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas être fait. Simplement, je pense qu'il y a une considération globale à prendre. Alors, il y a eu des mesures. Il y a eu le fonds de friche avec le Premier ministre.
On va en parler dans un instant.
Il y a Rebsamen qui mène une commission également sur la simplification de la construction. Mais après, il faut du pognon. Et ce pognon, il doit être mis dans l'immobilier pour permettre effectivement la relance à la fois de l'économie et de la construction de logements. Alors, je ne voudrais pas que ce soit un arbitrage qui soit fait au final, au détriment effectivement de cette construction.
Parce que c'est sûr que si d'un côté on ne construit pas et que de l'autre on change effectivement les étiquettes des logements et on les fait passer de E à F, etc., à un moment, c'est l'effet ciseau, quoi.
Hein. Rappelons une chose, vous avez raison de le rappeler, c'est que simplement ceux qui ne seront pas dans les normes énergétiques ne pourront pas louer. Donc il y a plein de propriétaires privés en France, hein, avec les différents dispositifs fiscaux, qui ne pourront pas rénover, qui seront peut-être obligés de revendre, on ne sait pas, mais en tout cas, ne pourront plus louer. Donc il va encore manquer du logement, même à la location.
Merci Pierre Évrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM, évidemment, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant avec notre invité du jour, vous venez de l'entendre, Philippe Taboret de CAFPI, et nous parlerons également des syndicats de plus en plus numériques, les syndics de plus en plus numériques, avec Antonio Pinto, fondateur de Bellman, qui est avec nous. À tout de suite.
Le quotidien de l'IMO revient sur Radio IMO.
Meilleur bien. Le réseau humain, digital et équitable, constitué uniquement de conseillers immobiliers passionnés, expérimentés et motivés. Et en plus, 100% de nos agents gagnent 100% de commission sur toutes leurs ventes. Ils sont nombreux à avoir rejoint l'aventure. Alors, pourquoi pas vous ?
ThyssenKrupp Elevator est maintenant TK Elevator. Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. www.tkelevator.fr. Le quotidien de l'IMO. Tout écho, tout IMO. Midi 30. Christophe Bordet.
Le quotidien de l'IMO, vous êtes les bienvenus, évidemment, toute l'information économique et immobilière. Nous poursuivons notre discussion passionnante avec Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI, courtier bien connu, bien évidemment, l'un des leaders d'ailleurs sur le marché français. Tout va bien, Philippe, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de souci.
Ici, dans vos locaux ou en général
chez CAFPI ? En général, vous êtes bien.
On est très bien, on progresse en permanence. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que le courtage, c'est-à-dire ce service qu'on rend aux clients pour accéder à la propriété, a de plus en plus la cote, donc on est très sollicité, oui, c'est très formidable.
Eh bien, on va revenir à ce que vous venez de dire dans quelques instants, mais avant, eh bien, je vous propose d'accueillir Antonio Pinto de Bellman et on va parler du syndic numérique.
Le quotidien de l'IMO, l'Infotech.
Bonjour Antonio Pinto. Antonio Pinto, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Bonjour Antonio.
Allô, allô.
Vous m'entendez ?
Oui.
Ah, ce sont les risques du direct, Antonio, c'est comme ça. Et puis nous sommes à distance, bien évidemment. Allez, vous mettez la satisfaction des copropriétaires au cœur des décisions. Racontez-nous exactement ce que vous faites.
Alors, Bellman, c'est un syndic de copropriété qui s'est fixé comme mission de moderniser la profession pour la rendre plus efficace et plus transparente. Puisque globalement, il y en a besoin. On sent clairement qu'il y en a besoin sur ce marché, puisque d'un côté, les copropriétaires ne sont pas particulièrement contents de leur syndic. Le dernier sondage IFOP qu'on a fait montrait que plus de 50% des copropriétaires n'étaient pas satisfaits de leur syndic de copropriété. Mais en plus, de l'autre côté aussi, les gestionnaires et les comptables de copropriété qui ne sont pas épanouis, qui sont globalement en burn-out, qui estiment ne pas avoir de bons outils, qui estiment évoluer dans des structures à l'ancienne, avec des managers un peu à l'ancienne. Donc globalement, il y a un vrai besoin de moderniser la profession.
Alors, moderniser la profession, mais quand même, ce que je disais au début de cette interview, en ayant en ligne de mire véritablement le copropriétaire qui est au cœur de la décision, ça signifie quoi concrètement ?
Donc, remettre le copropriétaire au cœur de toutes les décisions, chez nous, c'est des actions très concrètes. C'est par exemple avoir un contrat tout inclus, sans petite ligne, donc sans possibilité de surfacturer. C'est avoir un contrat qui est résiliable à tout moment, par exemple, pour que les intérêts soient alignés entre nous et les copropriétaires. C'est sur l'ensemble des décisions qu'on prend vraiment en interne, vraiment à chaque fois, repartir des demandes, des besoins des copropriétaires qui nous disent globalement, moi, ce que je veux, c'est avoir une meilleure transparence sur les factures, comprendre mieux ce qui est payé, c'est avoir une meilleure réactivité et c'est se mettre en ordre de marche, non pas par rapport aux problématiques internes qu'un syndic de copropriété peut connaître, mais c'est se mettre en ordre de marche pour pouvoir répondre à ces demandes des copropriétaires.
Quand je vous écoute, Antonio Pinto, j'ai un peu le sentiment, si on lit entre les lignes, que vous accusez les syndics, on va dire, traditionnels, d'être malhonnête.
Alors non, c'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a énormément. C'est quelque chose de très difficile ce qu'on est en train d'essayer d'achever chez Bellman. Ça demande concrètement de repartir d'une page blanche. Mmh. C'est oublier un peu tout l'historique. C'est oublier un peu les anciennes manières de fonctionner. Et c'est concrètement de très bien utiliser le digital pour pouvoir permettre de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Mmh. Par exemple, un exemple très concret. Je vais vous donner un exemple très concret chez Bellman. Donc, traditionnellement, on sait que pour gérer une cinquantaine d'immeubles dans un cabinet traditionnel, vous allez avoir un gestionnaire, un assistant et un comptable qui vont gérer cette cinquantaine, mais même des fois jusqu'à 70 immeubles. Et la raison pour laquelle on donne autant d'immeubles à ces gestionnaires de copropriété, c'est parce que pour payer ces trois personnes et générer un petit peu de bénéfices, eh ben, il faut donner 70 immeubles à ces personnes-là. Si vous automatisez beaucoup plus la comptabilité et que, quelque part, vous redonnez les cartes aux gestionnaires de copropriété via l'informatique et que, quelque part, vous permettez aux gestionnaires de se passer d'un assistant, tout d'un coup, vous pouvez lui donner beaucoup moins d'immeubles et vous redistribuez un peu les cartes et vous lui permettez d'offrir un super service à ses copropriétaires.
Alors, dans le super service, pour avancer un petit peu dans l'interview, Antonio, il y a ce produit en interne qui automatise plein de sujets liés à la copro. Pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Exactement. Aujourd'hui, on a, donc notre logiciel automatise quasiment 70% de la comptabilité. Tout ce qui va être rapprochement bancaire, tout ce qui va être appel de fonds, tout ce qui, enfin, la comptabilité de copropriété, c'est pas aussi compliqué que la comptabilité d'entreprise et c'est en grande partie automatisable. C'est la première chose qu'on a faite. La deuxième chose qu'on a faite, chez nous, un gestionnaire, l'envoi des ordres de service, les demandes de devis, l'analyse des budgets, tenir au courant les copropriétaires de ces avancées, etc. Tout ça, c'est possible, faisable en quelques clics directement sur la plateforme du gestionnaire et mis à disposition également aux copropriétaires pour qu'ils puissent facilement collaborer ensemble et pour éviter que le copropriétaire envoie des emails pour demander ça en est où, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Donc, c'est pas une grosse chose qu'on a automatisé, c'est toutes les petites choses que le gestionnaire doit faire dans son quotidien qu'on a rendu extrêmement simple et fluide. Et typiquement, par exemple, payer un prestataire chez nous, le gestionnaire de copropriété peut le faire directement depuis ses emails.
En revanche, quand il y a un sinistre et qu'il faut que un responsable se déplace pour regarder ce qui s'est passé, mobiliser l'assurance, etc., etc., là, il y a quand même quelqu'un auprès du copropriétaire ?
Évidemment. Alors, j'ai beau être ingénieur informatique, je n'ai absolument pas la prétention de dire que c'est un métier qui est automatisable, loin de là. Ouais. C'est un métier qui doit rester humain. C'est un métier de relation entre les copropriétaires et cet expert métier qui est le gestionnaire de copropriété. Nous, ce qu'on fait chez Bellman, c'est qu'on lui redégage du temps sur les tâches sur lesquelles il a zéro valeur ajoutée et lui permettre d'effectuer toutes ces petites tâches administratives ou lui faciliter pour qu'il puisse passer plus de temps avec ses copropriétaires.
Philippe Tabouret, tiens, vous pensez que c'est une bonne idée chez Bellman ?
Oui, bien sûr.
Ce qui vient d'être dit là ?
Oui, c'est une bonne idée. Heureusement, Ricardo, c'est ça ?
Pinto ? Antonio.
Antonio. Antonio l'a rappelé juste à la fin, là, en disant effectivement, ça ne remplace pas l'humain, ça complète l'humain. Et c'est ce qu'on appelle les modèles hybrides. L'informatique apporte, ou le digital d'une façon générale, apporte beaucoup de solutions qui vont permettre de libérer du temps et mieux servir les clients. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans toutes ces discussions, et vous l'avez soulevé, d'ailleurs, la question était un peu brutale tout à l'heure. Est-ce que vous considérez...
C'était un peu fait exprès, oui.
Je comprends bien, vous êtes dans votre rôle de journaliste, mais c'est cette réputation dont, malheureusement, souffrent les syndics d'immeubles. C'est un métier, mais terrible d'être syndic d'immeubles. C'est absolument abominable. C'est expliqué
à tout
le monde.
En tout cas, c'est se faire taper dessus en permanence.
En permanence. Sûr. Et ouais. Je vois, j'ai un ami qui est dans les écoles supérieures de l'immobilier qui n'arrive plus à former des spécialistes de syndic à cause de cette réputation. On travaille, il n'y a pas le week-end, le soir, on se fait insulter, enfin on se fait taper dessus, alors que c'est un métier vraiment qui mérite effectivement d'avoir des âmes de noblesse. Donc, que des solutions viennent soulager l'humain pour lui donner du temps à expliquer, à passer du temps, c'est un vrai métier. Les copropriétaires ne peuvent pas le gérer eux-mêmes, c'est trop complexe, il faut qu'ils fassent confiance à des syndics, si ça peut y participer, c'est parfait.
Merci en tout cas, merci Antonio Pinto, fondateur de Bellman, d'avoir été avec nous dans le quotidien de l'IMO. Vous êtes copropriétaire, et bien voilà, vous pouvez le cas échéant, passé par Bellman. Tiens, vous êtes copropriétaire, vous,
oui, bien sûr.
Ah oui, d'accord. Non, je pensais que vous aviez une grande maison, rien qu'à vous.
En copropriété.
Ah d'accord. Bon,
c'est un peu spécial, mais ça...
C'est un peu spécial, mais ça a l'air sympa. Si vous voulez, faudra nous inviter un de ces jours. Hein. Merci aussi, Philippe, vous restez avec nous, parce que c'est parti pour le conseil pro du jour.
Le quotidien de l'IMO. Le conseil du pro.
Bon, alors évidemment, on a un pro avec nous, alors on profite de votre présence, vous qui êtes courtier de crédit. Moi, j'ai envie de vous poser une question simple, tout d'abord. Pourquoi c'est mieux de venir voir un courtier si l'on veut acheter dans des conditions optimales, plutôt qu'un banquier ou que son banquier, par exemple ?
Alors, la première raison qu'un acheteur ou un emprunteur va chercher à trouver chez le courtier, c'est bien sûr l'économie. L'économie, elle va se jouer sur deux tableaux. Le premier, c'est bien sûr la négociation, la capacité que le courtier a de négociation avec l'ensemble du marché des banques en fonction du profil de l'emprunteur et du projet immobilier. Ça, c'est le premier point. Mais il faut toujours rappeler que dans ce contrat de crédit immobilier, il y a aussi une assurance. Et donc, une deuxième négociation avec l'assureur pour le contrat qui va couvrir le risque de maladie ou d'accident de l'emprunteur. Rappelons aujourd'hui qu'avec des taux de crédit immobilier aux alentours des 1%, si on trace la moyenne, et des assurances qui soient à 0,50, les deux contrats sont presque aussi importants. Ouais. Il suffit d'avoir un pépin de santé pour payer plus cher d'assurance que de crédit. Donc,
Les assurances n'ont pas un peu augmenté, justement, en parallèle de la baisse des crédits?
Non, au contraire. La proportion du coût, oui, bien sûr, a augmenté, puisque les taux baissent, l'assurance est constante. Ouais. Mais par contre, le coût a plutôt tendance à diminuer.
On aurait pu se rattraper sur l'assurance.
Puisqu'il y a des lois qui...
Peu.
Non, ben non. y a des lois qui poussent vraiment à permettre la négociation individuelle. Et les clients ne s'intéressent pas assez à l'assurance emprunteur. Ils demandent un crédit immobilier, ils oublient de négocier l'assurance. Donc ça, c'est les deux aspects économiques de la démarche du courtier qui va aider, puisqu'on est aussi courtier en assurance, à bien sûr optimiser d'un point de vue gain le coût. Mais ce n'est pas tout. Un peu comme on le disait juste avant, le professionnalisme apporte tous les conseils. C'est-à-dire, dans le contrat, il y a plein de petites choses. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut sortir du contrat de crédit, rembourser une partie? Est-ce que je peux moduler mes échéances? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et tout cela, nous, on va bien évidemment veiller à ce que toutes ces options soient mises en œuvre dans le contrat.
Et le décrypter aussi pour l'acheteur, parce que c'est ça le conseil, justement.
Oui, parce qu'on est une profession réglementée, on a un devoir, bien sûr, de conseil. On doit comparer des offres, soumettre ces comparaisons et vérifier que le client a bien compris l'ensemble de ces offres. Mais en définitive, qu'on pose la question, on a fait une étude aussi IFOP sur l'attente des Français, encore récemment, le mois dernier, la première chose qui ressort, c'est quand même le gain de temps. C'est cet accompagnement humain, le gain de temps. Les banques sont de moins en moins présentes physiquement, moins d'agences, moins de salariés à disposition des personnes qui ont des comptes dans ces banques. Donc, nous, on remplace un peu ce manque de relations. On est très disponible, on travaille le soir, le week-end, enfin, on n'a pas de limite. Et puis, on
donc,
apporte...
le conseil, c'est de venir vous voir.
Et puis, on gagne du temps avec simplement. Le courtier, c'est ça. On est sûr de remplir les objectifs de délai posé par la promesse de vente ou le contrat de réservation dans le neuf pour pouvoir délivrer son contrat de crédit, obtenir ses accords, signer ses offres et ses assurances pour être à date chez le notaire et devenir propriétaire.
Allez, une petite question encore avant de se quitter. Je voulais revenir avec vous sur un point que vous avez soulevé au début de l'émission, le fonds friche pour libérer du foncier. C'est une bonne nouvelle quand même.
Oui, ça l'est, puisqu'en fait le premier problème des constructeurs, c'est le manque de foncier ou un foncier trop cher, trop à la négociation. Donc le gouvernement, depuis longtemps, essaye de pousser effectivement cette libération de foncier. Donc là, le fonds de friche, c'est réhabiliter des friches industrielles ou autres en libération de foncier d'habitation, principalement pour éviter de l'étalement urbain.
Et Dieu sait s'il y a des friches.
Et il y en a, mais peut-être pas assez pour répondre au problème global de manque de construction de logements, mais c'est un plus. Donc c'est une bonne idée. Il y a 1 milliard d'euros qui ont été investis pour aider les collectivités locales là-dessus. Bon, c'est bien. Mais encore une fois, ce que je crains, c'est que par ces petits... touche intéressante mais insuffisante, ben on en vient à dire l'essentiel n'est pas fait. C'est quoi l'essentiel? Il y a deux choses. Simplification des permis de construire, arrêter les recours, accélérer les procédures, etc. Pousser certains maires à construire dans des zones avec la part de social nécessaire, etc. C'est avoir une vraie réglementation beaucoup plus push-push
là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué tout ça, parce que, par exemple, si vous avez, une plante rare qui pousse sur un terrain, qu'elle est découverte tout d'un coup, hop, les travaux s'arrêtent, et avant qu'ils reprennent, avant que la justice se prononce, etc., ça peut durer des années.
Enfin, c'est normal.
Il y a plein d'exemples comme ça en France, c'est terrible.
Et en attendant, on laisse des gens dormir dehors.
Oui, bien sûr.
Il faut se poser les vrais problèmes. L'écologie, je suis pour, mais il y a une limite quand même, l'humain d'abord.
C'est vrai que c'est un vrai problème quand même.
Bien évidemment que c'est un problème.
C'est une réalité. Et en plus de ça, on a l'Europe qui est au-dessus de nous, si je puis dire, et qui dit attention, zéro artificialisation nette. Donc là aussi, on ne peut pas bétonner. Donc à la fin, on ne sait plus très bien ce qu'on doit faire, en fait.
Ce qu'il faut peut-être, c'est aussi rappeler qu'on est d'abord là dans un gouvernement pour répondre à l'attente des citoyens. On a été élus pour cela. Et que les citoyens, ils demandent quoi? Ils demandent aujourd'hui du vert. Ils demandent aujourd'hui de l'espace. Ils demandent aujourd'hui des transports. Ils demandent l'urbanisation. Peut-être pas des grandes villes, mais peut-être les villes moyennes qui ont besoin d'être accompagnées et aidées pour pouvoir s'y installer. Il faut artificialiser les sols.
Si on veut s'étaler urbainement, on est en campagne presque présidentielle, régionale pour l'instant.
On y est pour l'immobilier.
Macron est un ami du logement ?
Aucun président de ces 50 dernières années n'est un ami du logement. Ils se sont succédés sans s'y porter un grand intérêt, si ce n'est de rappeler que les propriétaires, ce n'est pas terrible d'être propriétaire.
Sarkozy avait dit, je ne sais plus, tous propriétaires.
Macron aussi l'a dit en début de mandat, mais en fait, il ne le réalise pas. Pourquoi ? Simplement pour une simple raison, c'est qu'un mandat politique, c'est 5 ans, peut-être renouvelé, mais c'est 5 ans, alors qu'un programme logement, c'est 30 ans. Donc il faut avoir du courage pour effectivement décider d'un vrai programme de logement. Et donc le deuxième aspect, au-delà d'aider la construction, c'est bien dû aider l'accession. Et ça, on a retiré les appels à l'accession, on a diminué le bénéfice du prêt à taux zéro, on a pris que des mesures contre l'accession à la propriété, alors que c'est le moteur. Quand je suis promoteur, c'est parce que j'ai des acheteurs que je vais construire, c'est parce que il y a pas que des institutionnels, il y a aussi des institutionnels qui reviennent, mais les particuliers qui souhaitent devenir propriétaires, c'est comme le rêve des Français, eh bien, faut les aider, faut les accompagner pour pas qu'ils prennent de risques. Et tout cela assemblé, c'est ça un programme de logement, et eh ben, ça permettrait effectivement de résoudre ce problème de logement des Français, et pour moi, c'est un vrai programme politique.
Merci beaucoup, Philippe Taboret, d'être venu nous voir sur Radio Imo dans le quotidien de l'Imo. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de CAFPI. Et on retrouve bien sûr ce programme en podcast sur Radio Imo. À très bientôt.
Le quotidien de l'Imo, tout écho, tout Imo. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes vos plateformes de streaming.